12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Les deux bandes dessinées que nous mettons ce midi entre les mains de nos critiques racontent d'un côté un fragment de l'histoire de l'Italie, de l'autre une histoire intime et autobiographique, mais avec la même volonté d'un récit tantôt absurde, guidé par le hasard, tantôt décalé. Nous parlons d'abord de mon infractus, quand j'étais DJ d'Hervé Bourris, puis de « Il ne devra plus y avoir d'orphelin sur Terre » d'Aurélien Ducoudray et de Thomas Azuelos.
Et pour en débattre ce midi, nous accueillons Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur de l'émission Plan Large sur France Culture le samedi à 14h. Et nous accueillons aussi Victor Massé de l'Épinay, journaliste. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec mon infractus, quand j'étais DJ d'Hervé Bourris aux éditions Glénat, paru en ce début de mois d'avril. Ce titre de Parvati Khan est, selon Hervé Bourris, l'un des meilleurs morceaux pour danser. Dans ce cas, comme dans son roman graphique, tout est une question de battement par minute. Ce rythme qui permet de mixer deux chansons entre elles, de faire une transition douce et évidente pour que la piste de danse ne se vide pas. Hervé Bourris raconte dans cette BD son expérience de DJ quand il était d'abord étudiant, puis plus tard devant un vrai public, une manière de partager son amour de la musique et ce plaisir qu'il a depuis toujours de faire écouter de la musique aux autres. Mais si le dessinateur et auteur de BD en vient à livrer ses souvenirs de DJ, tout est une question de battements par minute, c'est après avoir survécu en juin 2022 à un infractus. Même sa médecin généraliste n'arrive pas à le prononcer correctement, ça donnera le titre de cette BD. Une fois sorti d'affaire, son entourage donc le pousse à raconter cette expérience, mais Hervé Bourris ne veut pas tomber dans la mode des livres témoignages et il nous offre donc, en guise de BD, sa playlist en images, des anecdotes à l'appel, ses rencontre avec Christophe, Philippe Catherine ou encore Rubinsteiner, c'est joyeux, c'est coloré, c'est entraînant, tellement qu'Hervé Bourris finit quand même par se livrer. Qu'en avez-vous pensé, Victor Massé de l'Épinay ?
Eh bien écoutez, quand j'ai vu ce titre, moi j'avais pas lu au début que c'était mon infractus, j'avais lu mon infarctus sans faire très attention. Quand j'ai vu ce titre, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Vous avez dit que c'était une mode, les bandes dessinées, où on se racontait, où on racontait ses problèmes de santé. C'est presque un fléau. Il y en a tellement qui parlent de la calvitie, des ongles incarnés ou de choses plus graves. Donc ça m'a fait d'abord lever les yeux au ciel. Et puis quand j'ai vu le sous-titre, quand j'étais DJ, ça a été encore pire. Parce que moi, s'il y a une chose que je ne connais absolument pas, c'est bien les DJ, l'art du DJing. Par Vatican, ça ne me disait rien. Et moi, je ne danse pas sur de la musique. Moi, je suis plus... Brassens au coin du feu,
vous voyez. Ah oui, d'accord, okay.
donc c'est vraiment pas mon monde, je le dis très franchement. Eh bien, cette bande dessinée m'a absolument enchanté. Je me suis régalé à la lire pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est très drôle. Et puis parce que c'est très, sinon instructif. C'est pas une bande dessinée documentaire sur ce que c'est que d'être DJ, sur comment on mixe, comment ça se passe techniquement. Mais c'est quelque chose de très généreux. Hervé Bourris nous partage sa passion et il le fait de manière très ouverte. Alors d'abord, c'est très drôle puisque, en effet, il commence par dire qu'il ne veut pas faire une bande dessinée documentaire sur son problème, sur son infarctus. Et il le fait de manière assez drôle, en se moquant d'autres bandes dessinées, en se moquant des gens qui lui disent à tout bout de champ « Ah, t'as un infarctus, c'est le sujet de ta prochaine BD ». Bon, tout ça est...
Ouais, il se met en scène dès le début, hein, les premières planches, c'est lui. Et il y a cette réflexion, effectivement, j'ai survécu à cet infarctus à 48 ans. Et tout le monde me pousse à le raconter, en fait.
Voilà, et donc il ne va pas le raconter, même en le racontant un peu quand même. C'est pas les pages les plus qui m'ont le plus enchanté, d'ailleurs, celle où il raconte plus plutôt le côté sanitaire, enfin, ou médical de son histoire. Et en revanche, c'est une porte d'entrée pour raconter. Enfin, il se dit quand il est sur son lit d'hôpital, en fait, ou quand il sort plutôt, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, c'est d'aller mixer. Et donc, il se dit en fait, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, et c'est ça qu'il va raconter. Et pourquoi j'ai aimé ça? Parce que justement, d'abord, il le fait sans. Pour moi, c'était quelque chose d'assez hermétique, les DJ, des gens qui se prennent un peu au sérieux. Et il le montre quelque part. Il montre que les disquaires sont désagréables. Moi, j'ai essayé de rentrer rentré une fois ou deux chez des disquaires, à chaque fois on se fait rembarrer, on a l'impression de rien connaître, on dit désolé d'être un béotien. Bon, il le met en scène. Et moi, je me demandais toujours pourquoi on applaudissait les DJ. Je me disais peut-être qu'ils ont préparé leur playlist à l'avance et qu'ils font semblant de lever les bras. Il dit qu'il l'a fait. C'est la première fois qu'il a mixé en public. Il avait tout préparé sur son ordi et il faisait semblant. J'ai trouvé ça. Donc, je me suis dit donc c'est possible, même si après il va voir Laurent Garnier ou d'autres qui disent que c'est évidemment une hérésie pour un DJ que de faire ça. Mais j'ai trouvé qu'il partageait très bien ce que c'était l'essence. Enfin, ce qu'il aimait là-dedans, c'était de partager, de faire découvrir des playlists, enfin, de faire découvrir des morceaux aux gens. Et ça, c'est quelque chose, même quand on aime Brassens ou Jacques de Broncard ou d'autres trucs obscurs, on aime bien faire découvrir des choses aux gens. Moi, c'est pas pour danser, c'est plus pour chanter. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de très généreux et qui faisait ça avec beaucoup de talent. Mais on connaissait ses talents de caricaturiste, ses talents de. Mais voilà, je vais laisser aussi.
Antoine Guillaume, justement, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on regarde bien, on gratte bien derrière le vinyle dans cette bande dessinée? Est-ce que c'est ça qui vous a plu? Et comment est-ce que vous avez vu ce mélange entre effectivement ce choc pour lui à 48 ans? L'infarctus et la façon avec laquelle il mêle son histoire ancienne de DJ et même encore actuelle.
En fait, sous prétexte de parler de musique et de DJ, il ne parle que de bande dessinée. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, avec une grande pudeur, résultat, parce que contrairement effectivement à ce qui se pratique depuis maintenant plus de 30 ans en autobiographie dessinée, c'est vraiment devenu un genre à part entière, mais très éculé. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette progression vers la bobologie et on en voit beaucoup pour le meilleur et pour le pire, mais c'est une façon en fait détournée de parler de sa façon de concevoir la bande dessinée. Il faut savoir que Bourris, c'est quelqu'un qui était, parce qu'on va voir maintenant ce qui s'est passé depuis son infarctus, qui est très très prolifique. Hein, depuis, il a commencé à la fin du siècle dernier. Il
avait une quarantaine de BD.
Mais même une cinquantaine, ouais. de tout format. Donc c'est quelqu'un qui sort chaque année 3 ou 4 bouquins. Et ce qu'il ne raconte pas dedans, c'est que son infarctus vient de là aussi. C'est-à-dire d'un surmenage, qui est celui d'un auteur de bande dessinée de seconde catégorie, comme s'il se décrit lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment percé, qu'il n'a jamais eu un grand énorme succès qui lui aurait permis de se reposer dessus et qui donc simplement, pour pouvoir manger, vivre, doit produire énormément. Et puis à un moment, il s'arrête, malgré lui, et il doit réfléchir à où il en est dans ce qu'il fait. C'est quelque chose que d'autres auteurs avaient déjà fait, comme Lewis Trondheim avait fait un livre qui s'appelait Désœuvré au moment où il avait décidé d'arrêter Lapineau. Philippe Dupuis avait fait ça avec Hanté. C'est-à-dire que c'est un moment où on fait un point. Et sous prétexte donc de parler de musique, il ne parle que de sa façon de concevoir la bande dessinée.
Alors comment ça se voit, comment on le lit dans cette bande dessinée-là, Mon infractus?
Parce que la manière qu'a Bourris, en tout cas dans ses bandes dessinées les plus personnelles, pas quand il fait des scénarios pour d'autres, c'est une pratique du collage, on dirait. C'est un peu un encyclopédiste, notre ami Bourris, qui a toujours des choses à raconter. Les petites anecdotes, ce sont des faits, en fait. Et alors, ça vient, là, il va nous raconter l'histoire de la musique, il va vous mettre des pochettes de disques qui ont tout un rapport avec le cœur. Il va avoir une pensée un peu du coq à l'âne, ce qu'il appelle un dessin-écriture. Ce qui est très passionnant, justement, dedans, c'est qu'on le voit progresser dans son récit, comme s'il l'improvisait. Comme précisément on peut faire un DJ set quand on est au meilleur, c'est-à-dire en disant tiens, telle musique, vu ce que ça provoque chez mes danseurs, mais ça peut être aussi
le public, ouais.
Chez le lecteur qu'on imagine, je vais mettre tel autre élément derrière. Donc c'est une pratique du collage, moi, que je trouve tout à fait passionnante, parce qu'on voit cette bande dessinée se réaliser au fur et à mesure, inventant tous les moyens techniques de le faire, y compris dans l'utilisation du lettrage manuel. Vive le lettrage manuel, on le dira jamais assez ici, mais qui joue aussi avec un lettrage mécanique et qu'on voit dès la couverture, cette espèce d'étrange police nuageuse où on ne sait pas si c'est du pop-corn ou du marshmallow qui intervient régulièrement et avec lequel il joue également. Autre grand plaisir, c'est celui de la couleur.
Alors justement, est-ce que cette couleur-là aussi, elle permet pas justement de rester dans cet univers-là, parce que tout ce que vous décrivez, ça peut être perturbant pour l'œil, pour le récit, pour cette façon de lire cette bande dessinée. Antoine Guillaume, alors, la couleur, elle permet l'unité?
C'est unifié par cette couleur qui est en fait une trichromie. Il y a le noir habituel. Alors là, il va utiliser avec les techniques de reproduction qu'il y a maintenant, le crayon passe aussi bien que l'encrage, mais surtout, il y a ce rouge et ce bleu. Alors le rouge et le bleu, souvenez-vous de vos planches d'anatomie quand on vous explique le fonctionnement du cœur. Il y a le sang qui rentre d'un côté côté, le sang qui sort de l'autre, il est figuré en rouge et en bleu. Mais c'est aussi des procédés assez anciens de reproduction. Ça m'a fait beaucoup penser à la rhizographie, qui est un principe d'impression. En fait, on ne sait jamais trop comment les couleurs vont se caler et qui souvent utilisent des couleurs comme ça, le rouge, le bleu. Et c'est la superposition un peu hasardeuse de tout cela sur le papier et de cet album, qui est un papier un peu pelure, donc qui a tendance à baver, qui donne des effets de matière assez formidables, mais qui effectivement unifie l'ensemble.
Victor Massé de l'Épinay, sur cette couleur, sur cette façon de dessiner aussi, de raconter une histoire, cette narration effectivement au fil de l'eau en quelque sorte.
Oui, il y a un petit côté, je suis tout à fait d'accord avec Antoine sur ce côté, sur l'idée que cette bande dessinée est conçue comme on conçoit un set. Enfin, moi j'ai appris ce que c'était que de concevoir un set de DJ un peu en le lisant, mais on voit bien ce côté un peu marabout de ficelle où tu vois tout d'un coup une idée en évoque une autre, un beat ou un rythme va en appeler un autre, et il y a des digressions, il y a des pleines pages. Il y a un rythme qui change beaucoup aussi dans les pages de ce livre, où quelquefois on a des pages de bande dessinée classique, quelquefois ça ressemble plus à de l'illustration, quelquefois à un travail de graphiste. Et en effet, ces anecdotes amusantes que Bourris se plaît à essayer sans faire le malin. Enfin, peut-être qu'on les connaît, peut-être qu'on les connaît pas. Moi, j'en connaissais pas. Georges Marchais se fait enterrer sur du Miles Davis. Enfin, tout d'un coup. Et c'est toujours le sujet d'une chouette caricature, parce que vraiment, il est quand même, un caricaturiste assez doué. Il y a des têtes d'Igelin, de Luz, de beaucoup de gens qui sont vraiment très, très bien croqués. Et ce côté encyclopédiste, on l'avait vu, en effet, dans plusieurs livres de Bourris avant. Je pense au Brit Book, qui est une sorte de miscellanée de la culture anglaise qui va à travers plusieurs siècles, plusieurs domaines, qui est quelque chose de très amusant. Et en revanche, évidemment, ça parle de ce que c'est que d'être auteur de bande dessinée. Je crois quand même, enfin pour moi, que ça parle aussi de musique quand même. Et moi, j'ai eu envie d'écouter beaucoup de musique en lisant, enfin d'aller découvrir en fait tout ce dont il parle, puisque je connaissais pas 9/10 de ce dont il parlait. La pochette de Laurent Voulzy, Le Cœur Grenadine, ça me disait quelque chose.
Elvis Presley, quand même.
Elvis Presley aussi. Mais sinon, je ne connaissais pas LCD Sound System, qui est le groupe le plus important des années 2000. Je ne connaissais pas l'album de Love, dont il dit que c'est le plus grand album de tous les temps. Donc j'ai commencé à aller écouter tout ça et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Et je pense qu'en cela, Hervé Bourris a réussi aussi quelque chose. Je pense que c'était une de ses ambitions, oui, de donner envie d'aller écouter des choses.
On peut passer des heures à lire cette bande dessinée si effectivement on s'arrête à chaque titre et à chaque artiste, Antoine Guillot.
Oui, puis alors dans ce côté sérendipité de ce livre où régulièrement il rencontre des gens, mais il y a quelque chose qui est très drôle, c'est qu'il survend à chaque fois. Il dit attention, là vous allez voir, vous allez rencontrer Roméo Elvis, et ça devient un moment un peu lamentable en loge où Roméo Elvis est très vexé parce que le patron du lieu a fait une mauvaise blague sur la défaite de l'équipe de football belge. Et c'est un moment où il se passe absolument rien, et le mieux, c'est la rencontre avec Sophie Kahl. Grand moment avec la plasticienne Sophie Kahl. Et il y a un effet aussi Sophie Kahl, justement, dans ce livre, où il sympathise sur du fromage, et où on a droit à cette réplique mémorable de Sophie Kahl qui est « Et il est comment, le Saint-Nectaire ?»
Mon infractus quand j'étais DJ d'Hervé Bourris, c'est aux éditions Glénat Collection Millefeuille.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de la BD « Il ne devra plus y avoir d'orphelins sur cette terre » de Aurélien Ducoudray et Thomas Azuelos aux éditions Futuropolis.
À l'image de cet extrait d'Amarcord de Fellini, il y a une influence forte et assumée du cinéma italien dans cette bande dessinée. Nous sommes dans l'Italie de la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme dans le court roman Compagnon de voyage de Curzio Malaparte, dont s'inspirent librement les deux auteurs français. Après le débarquement des Alliés, après le renversement de Mussolini en 1943, l'armée italienne est en déroute, le pays en plein chaos. On suit donc le parcours d'un de ses soldats, Calusia, comme les autres, veut rentrer chez lui, tout au nord de la péninsule, mais il doit d'abord remplir une dernière mission. Cette lourde caisse qu'il trimballe sur le dos de son âne appartenait à l'un de ses compagnons d'armes et il doit la livrer dans un palais de Naples. Le mystère d'ailleurs de son contenu reste entier tout au long de ce road trip et il interroge chaque personne que Calusia va rencontrer. Antoine Guillot, qu'avez-vous pensé de cette bande dessinée, de ce récit et de l'époque aussi qu'il arrive à nous transmettre?
Alors l'époque, je ne sais pas laquelle il nous transmet. C'est ça qui est très très étonnant avec ce livre. On est effectivement dans cette Italie en déroute qu'a décrite Malaparte et dans ses romans, dans La Peau en particulier. On est dans un monde post-apocalyptique qui pourrait être celui des fictions contemporaines qu'on voit sur les plateformes de séries. On est aujourd'hui dans... alors je pense qu'ils ont fait le livre à un moment où ils pensaient beaucoup à l'Ukraine et puis ce qui se passe à Gaza en ce moment percute tout d'un coup ce livre de manière incroyable. Et on est aussi dans quelque chose de très antique. Moi, c'est ce qui m'a frappé en premier. J'ai l'impression de voir une sorte d'Antigone portant effectivement cette caisse. On dira pas ce qu'il y a dedans, mais il y a une sorte de devoir divin à accomplir qui ira jusqu'au bout. Pourquoi je pense à ça? Parce que beaucoup des personnages ressemblent parfois à des statues grecques ou romaines, notamment sur ses yeux dessinés comme on les voyait sur les statues. J'ai pensé beaucoup au Blotch de Peplum, par exemple, qui jouait sur cette même iconographie, une femme qu'on va rencontrer sur le chemin portant un matelas sur la tête qui est inspiré d'Irène Papas dans Zorba le Grec, a ce côté statuaire comme ça très impressionnant. Donc on est dans un monde un peu mouvant, un monde très psychologique aussi, c'est-à-dire c'est aussi le désastre d'un homme qui a perdu beaucoup et qui va essayer de retourner chez lui, et là c'est quasiment Ulysse par moment. Et ce qui m'a moi sans doute le plus frappé au-delà de l'aspect vraiment plastique de ce livre qui est phénoménal, c'est la dimension sonore. C'est un livre qui commence par du son et qui commence par ce pac 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 d'un homme qui martèle des gros clous à enfoncer dans sa caisse, et ce petit élément va revenir. Ça pourrait être un petit caillou qu'une adolescente va projeter sur la route de l'exil et de l'exode comme une sorte de marelle, et ça va monter en puissance jusqu'à cette arrivée à Naples complètement dingue à la fin, où on sent, il n'y a même plus besoin de mettre des onomatopées comme ça, on sent la rumeur de la ville, ce grouillement incessant. Donc on pourra revenir après sur effectivement toutes les citations très explicites du cinéma italien, mais moi c'est cette puissance sonore qui passe par le graphisme qui m'a énormément impressionné.
Je compte sur vous pour les citations du cinéma italien.
On n'y manquera pas.
Antoine Guillot, Victor Massé de l'Épinay, même sentiment, peut-être, voilà, d'être dans cette Italie de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en même temps cette répondance, cette résonance avec ce qui se passe aussi en 2000, dans les années 2020.
Ouais, absolument, et surtout la résonance avec l'Antiquité, en effet. Mais d'abord, je pense que le cadre historique, pour le coup, est quand même là. L'Italie de la fin de l'année 1943, après... C'est un moment qui est pas vraiment dans nos programmes scolaires en France, mais c'est l'Italie a signé un armistice avec les Américains, l'Allemagne a fini par envahir l'Italie, et c'est un pays, enfin il y a quand même beaucoup de témoignages là-dessus, hors des œuvres de fiction, des livres et des films. Les soldats français d'Afrique du Nord, par exemple, qui ont débarqué en Italie, ont été frappés par un pays qui était dans une déroute à la fois économique et morale. Enfin, je dis morale parce que c'était un pays qui ne savait plus du tout où il était, les soldats ont tourné Kazakh en quelques jours. Tout le monde était sur les routes dans une détresse infinie. Beaucoup de femmes, c'est un livre qui est centré sur les femmes, puisque les hommes sont soit encore au combat, soit morts, soit beaucoup, beaucoup de soldats disparus. C'est un des thèmes centraux de ce livre. Il y a quelque chose du soldat inconnu, un spectre comme ça des hommes enfuis ou disparus. J'ai été très frappé par, en effet, par, enfin d'abord peut-être par le dessin aussi dont on n'a pas encore parlé. Il y a des références au cinéma italien et en même temps c'est un livre qui ne singe absolument pas le cinéma. C'est vraiment un auteur de bande dessinée. Enfin, je parle de Thomas Azuelos, donc qui est le dessinateur. Il y a des cadrages qui sont des cadrages et des façons de raconter et des découpages qui sont vraiment complètement propre à la bande dessinée d'un auteur qui maîtrise vraiment ce qu'il veut faire. Je pense aussi à cette première séquence qui m'a beaucoup marqué. Antoine a parlé du son. Les cadrages sur ces premières pages muettes sont, je trouve, magnifiques. En effet, les sons débordent un peu des cases. Mais il y a cette main, par exemple, qui tient un couteau. Il y a quelque chose d'un peu maladroit. On a l'impression qu'elle ne tient pas le couteau, que le couteau a l'air posé dessus. Et en fait, on voit quand même que c'est un dessinateur qui a une grande maîtrise, je pense, technique. Le corps de ce soldat, avec la nuque épaisse, les bras épais, sont hyper bien rendus. Mais c'est quelqu'un qui s'affranchit un peu de sa technique pour donner un dessin un peu plus allégorique, un peu plus libre. Moi, j'ai pensé à des dessinateurs comme David Prudhomme en lisant ça. Il y a quelque chose d'assez vraiment de très élégant. Élégant, de très doux.
Est-ce qu'on peut, parce que vous parlez de douceur, de la forme, effectivement, quelle est cette esthétique? Parce qu'on est sur des couleurs aussi qui transpirent le chaos, qui transpirent cette période où on se trouve. Comment est-ce qu'on peut la décrire et quelle est cette technique utilisée par Thomas Azuelos?
Ah bah alors la technique il y a beaucoup de choses,
hein. Technique mixte, on dit.
Technique mixte, voilà, c'est ça. Là. Manifestement, il y a de la plume et du pinceau à l'encre, et il y a de la vie un peu à l'aquarelle. En tout cas,
il y a du crayon de couleur qui rehausse et il y a même du stylo bic pour le bleu. Et l'apparition du bleu sur une robe d'orpheline ou dans les yeux du héros qui donne un griffé tout d'un coup qui tranche sans arrêt. Enfin, pour le coup, c'est quelqu'un qui...
Il y a un mélange des genres, c'était là où je voulais vous emmener un peu.
Il mélange beaucoup les genres, mais c'est vrai que ça commence par une ambiance on a l'impression de voir un film en noir et blanc, un peu bleuté, et puis tout d'un coup surgit la couleur. Il y a beaucoup d'effets de monochrome comme ça dans ces pages. Alors, selon qu'on est dans le passé, l'avenir, dans le fantasme qui joue dessus, mais c'est vrai que c'est à la fois très intelligent, mais ça ne s'affiche jamais comme tel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait de manière très organique et y compris précisément dans ces compositions des cases qui jouent en permanence une lutte entre l'horizontalité et la verticalité. Il y a une scène complètement folle d'un soldat
un GI
ivre qui s'est accroché aux cloches de l'église d'un village, et le héros va grimper le long de ce clocher pour aller le récupérer, et ça donne comme ça des effets de contraste entre l'horizontalité et la verticalité qui sont très très impressionnants là.
Et on a ce chapitrage aussi qui est intéressant, parce que vous disiez qu'on est parfois perdu dans le fil narratif, en tout cas, mais volontairement, effectivement perdu, aidé par les couleurs, mais ce chapitrage qui arrive parfois
à
nous surprendre au milieu d'une page.
Hein. Oui, mais Antoine a évoqué l'Odyssée, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un homme qui est quand même, il faut parler un tout petit peu de ce soldat qui, au milieu du chaos, a une mission.
Ramener la fameuse caisse sur le dos de son âne.
Il est de Bergame, tout au nord, et c'est là qu'il a envie de repartir. Mais d'abord, il doit honorer une promesse qu'il a faite à un lieutenant. Et on sent bien que cette promesse est quelque chose, est vraiment ce qui va le tenir et qui devient un impératif pour lui. Alors, on peut penser à Ulysse qui doit rentrer chez lui, mais il y a quelque chose de l'ordre de la survie, presque de la civilisation. Qu'un homme tienne sa parole et ce pays sera sauvé.
C'est Antigone, hein,
dans l'état de déliquescence dans lequel il se trouve. Alors, et il y a quelque chose de l'Odyssée, en effet, dans cette succession de scènes, de personnages méchants, bizarres.
De rencontres, d'épreuves, en quelque sorte.
Voilà, d'épreuves. Et on croise une mère maquerelle diabolique avec deux gredins qui évoquent un peu Pinocchio, qui rabattent les innocentes pour les prostituer. On croise ces GI ivres, on croise des soldats anglais, on croise une petite jeune fille, une femme. Enfin, tout ça, c'est quand même, en effet, des figures allégoriques et un peu mythologiques, avec, encore une fois, pour moi, quelque chose de très beau, et quand même, ça je vais laisser Antoine en parler, une grande déclaration d'amour et à l'Italie quand même, enfin, et certainement au cinéma italien, il y a vraiment, je sais pas, c'était un livre inédit de Malaparte, on l'a pas dit, il a été publié seulement dans les années 2000.
À titre posthume, ouais.
Et peut-être, j'ai cru comprendre que c'était peut-être un scénario, enfin, qui voulait en faire un film. Et bon, ça sent vraiment le cinéma à plein nez quand même, cette bande dessinée.
Alors, on se tourne vers Monsieur Cinéma de France Culture, Antoine Guillot. Quelle référence? On a entendu Fellini au début, c'est assumé.
On a donné là la référence, les aventures de Pinocchio version Comencini, hein, et là il y a des personnages qui en sortent directement. Il y a effectivement Giulietta Massina dans La Strada qu'on voit un moment, mais je pense que les deux grosses influences, c'est un autre film de Comencini qui s'appelle La Grande Pagaille, où Alberto Sordi jouait précisément un soldat en errance comme ça, qui allait jusqu'à Naples, et le film de Vittorio De Sica, La Ciociara, avec Sofia Loren, qui partait, pareil, sur les routes. Alors elle, c'était pour fuir les bombardements de Rome, mais qui était avec sa fille, une fille de 12 ans, et elle se faisait toutes les deux violer par des soldats français. Voilà. Et ça, c'est l'angoisse qu'on a, pour peu qu'on connaisse ce film, c'est l'angoisse qu'on a en permanence en voyant ce soldat avec cette petite jeune fille, puisque la sexualisation de la jeune fille, et là encore, ça rencontre en plein notre époque, et en plein là-dedans. C'est quelqu'un qui va dire non, moi je ne veux pas. Voilà. Ça ne se fait pas. Et la boussole morale de ce livre, qui va jusqu'au titre, que vous le comprendrez en lisant le livre, il ne devra plus y avoir d'orphelin sur cette terre, et ce qui habite en permanence ce personnage, et c'est là précisément qu'on rejoint les grands mythes antiques.
Un mot sur ce titre, Victor Massé-Dépéné, pour terminer, c'est quoi, une injonction, un cri de souffrance aussi, il ne devra plus y avoir d'orphelin sur cette terre?
C'est d'abord au milieu d'une petite placette, comme on en voit dans l'Italie du Sud, un prêtre qui baptise un enfant avec deux parents, enfin une mère et une tante, et qui dit le père va revenir. Il y a tout le temps ce spectre des hommes qui ne reviennent pas, c'est vraiment ce qui est au cœur aussi de ce livre, et en effet il y a un sous-texte universel et moral, encore une fois, qui est magnifique.
Il ne devra plus y avoir d'orphelin sur cette terre, signé Aurélien Ducoudray pour le scénario et Thomas Azuelos pour le dessin, aux éditions Futuropolis. Merci à tous les deux, Victor Massé de l'Épinay, Antoine Guillot. On vous retrouve samedi à 14h pour l'émission Plan Large sur France Culture, et on vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission.